Jacques Jaume, nous nous intéressons au visage du Christ, nous nous intéressons au linceul de Turin. Et la semaine dernière, on a exploré avec vous ce qu'était le linceul de Turin, ce tissu absolument magnifique, d'un tissage unique qui était réservé qu'à une élite, même au roi. Il est unique au monde, ce tissu.
Absolument.
Ce qui nous a révélé aussi sur les douleurs, les souffrances endurées par cet homme.
Volontairement. C'est-à-dire qu'il a voulu souffrir. C'est ça le message. C'est-à-dire qu'il a voulu souffrir comme si la douleur avait un pouvoir sur quelque chose. Donc ça, c'est en tant que spécialiste de la douleur. En principe, la douleur n'a pas de pouvoir, elle détruit. Mais là, elle a une autre dimension. Et donc, il nous montre qu'il a une autre dimension. C'est qu'il a voulu subir ces tortures et cette douleur dans un but. Alors ça, c'est quand même très important parce que ça nous rapproche de la rédemption, de la douleur rédemption. Je fais des études universitaires sur le Moyen-Âge parce que les médiévistes m'ont demandé, ils m'ont considéré un peu comme un des leurs, de travailler sur la douleur au Moyen-Âge parce qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est ça, c'est très important. Il y a la douleur du Christ au Moyen-Âge, très importante. Et donc, le linceul de Turin nous montre que cet homme a énormément, parce que c'est un homme mort qu'on voit, hein, c'est pas un homme vivant. C'est un homme mort, mais avant de mourir, il a énormément souffert, et il a participé à cette souffrance comme, si vous voulez, la créer. Et tous les gens qui l'ont torturé, en fait, il les a manipulés. C'est lui qui avait le pouvoir tout le temps, mais en se donnant. Quand on veut le pouvoir en prenant, on n'a jamais le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qu'on prend en donnant. C'est exactement ce qui nous montre. C'est-à-dire, c'est une leçon. Entre la flagellation, le couronnement d'épines, parce que je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais il y a
parlé.
Un couronnement d'épines.
Il paraît que c'est épouvantable.
En casque, hein, voilà, vraiment. Hein, entre les coups qu'il a reçus, là, le nez cassé. Là, donc, c'est quelque chose qui est important. Et ce que je n'ai pas dit aussi, parce que je n'ai pas eu le temps, c'est qu'on retrouve des traces de piécettes du 1er siècle sur
les yeux.
Oui. Le problème, c'est qu'on a une empreinte en trois dimensions avec une information tridimensionnelle du linceul de Turin, d'un homme seul qui a laissé, après sa mort, une empreinte dans un drap qui mesure quelques millimètres. Il nous laisse une information. Le linceul de Turin est un support d'information. À nous de détecter cette information. C'est une écriture, si vous voulez, mais une écriture dont il faut avoir les sens. Et c'est une écriture réelle, c'est-à-dire que c'est vraiment un homme qui a vécu, qui a été torturé. Médicalement, on ne peut pas dire le contraire. Ceux qui disent le contraire sont malhonnêtes. Et ils sont corrompus par je ne sais quoi, mais ils sont malhonnêtes. Au niveau médical, vous ne pouvez pas dire le contraire. C'est un homme qui a vécu, qui a été torturé, qui a été recouvert de ce linceul, qui était mort. Et après sa mort, donc qui a saigné, qui a laissé de son sang, et après sa mort, a disparu. Il a disparu en laissant simplement des traces sur le lin d'une déshydratation, hein, oxydation des fibrines. C'est-à-dire
quelles sont devenues les pièces de monnaie qui étaient sur ses yeux ?
Alors c'est un problème. C'est un problème parce que moi, ça, évidemment, ça me posait la question. Alors avec le père Rinaudot, qui est un physicien, qui a une théorisation sur la disparition avec un rayonnement d'électrons. Je lui ai dit, il y a quelques années, ben, ça serait intéressant. Alors, il a fait ses expérimentations en faisant une roussissure sur du lin avec des électrons dans des machines atomiques. Je lui ai dit que ce qui est important, c'est qu'on met du lin, on met une piécette, on fait une projection d'électrons, on voit s'il y a une marque. Donc, on a fait expérience, il y a la trace blanche de la piécette.
Et la piécette, elle était encore là après ?
Non. La piécette, on l'avait trouvée dans un marché, c'était moi qui l'avais achetée et qui avait fait coudre sur une partie de laine
pour
qu'il
soit hydraté. Après qu'elle ait reçu les électrons, qu'est-ce qui est devenu ?
Ah ben, on a vu que simplement qu'il y avait un rond non marqué par les électrons. Donc
la piécette était toujours là ?
Oui, la piécette était toujours là. Donc l'homme du linceul de Turin, alors là, il y a beaucoup de controverses sur les piécettes parce que pour les voir, c'est pas évident quand même. Hein. Mais bon, tous ceux qui s'y intéressent, il faut partir du principe qu'elles y sont. Le problème, c'est le problème que je soulève et que tout le monde soulève, comment les traces sont laissées? Moi, ce que je propose, en fait, comme hypothèse, c'est que, en disparaissant, le corps, il n'y a pas de temps sur le linceul de Turin. C'est un drap qui a 2000 ans, donc il n'y a pas de temps. Le temps n'est pas le même que le nôtre. Donc le corps a disparu d'une manière immédiate, puisqu'il ne bouge pas. Au niveau de l'empreinte, Bon, il faut faire de la physique de l'optique et de la physique des empreintes. Si c'était arrivé d'une manière doucement, ça serait flou. Oui. Si jamais c'était passé à travers, on n'aurait pas... L'autre côté du linceul n'a pas de trace. Donc, il y a une disparition. La disparition ne peut être instantanée. C'est-à-dire qu'il y a dans un minimum de temps qui est infini.
Est-ce que l'image s'est faite à l'intérieur du tissu?
Oui, le linceul était recouvert sur... Il y avait le dos de l'homme du linceul était sur une partie du linceul et l'autre partie était recouverte sur sa face antérieure. C'est pour ça que quand on déplie le linceul, on a sa face postérieure et sa face antérieure.
Et les pieds se touchent.
Les pieds sont l'un sur l'autre. Oui.
Et, non, mais je veux dire, quand on la déplie, c'est...
Alors, la tête est au niveau de la pliure.
D'accord.
Donc, les pieds étaient dans le... où ça ne se pliait pas.
D'accord.
Voilà. Donc c'est une empreinte et il y a une la seule explication qu'il y a une disparition immédiate.
Et ça s'est imprimé sur les deux parties, celles qui étaient
dorsale,
sous lui.
Dorsale et antérieure. Donc on a
et
la face
à l'intérieur, voilà, et pas à l'extérieur.
Et pas à l'extérieur. On a la face antérieure de l'homme du linceul de Turin et on a la face postérieure de l'homme du linceul de Turin. C'est important. Et on a son visage.
Oui.
On a son visage.
Et on peut estimer que c'est un homme de 33 ans.
Non, c'est un homme un peu plus vieux. Une quarantaine
oui.
d'années, mesure 1m75, 78 kg, 80 kg. Donc ça, ça ne pose pas de problème à un médecin de le faire. Quoi. Donc, une corpulence avec de longs cheveux dans le dos, puisqu'on en a à l'image, avec une queue de cheval dans le dos. Alors, il existe à Oviedo, en Espagne, une relique du Christ qu'on appelle le suaire d'Oviedo, qui est absolument inconnu. Il y a quatre reliques importantes du Christ. Il y a le linceul de Turin, le suaire d'Oviedo, la tunique d'Argenteuil et la couronne d'épines à Paris. Le suaire d'Oviedo, en fait, représente les mêmes caractéristiques que le linceul. C'est le groupe AB du sang, on retrouve le même sang, des liquides, etc. Mais il n'y a pas d'empreinte. Le tissage est différent. C'est pas le même tissage. C'est un tissage vulgaire. Ben, commun, quoi.
Commun, oui.
Voilà. Donc, actuellement, les recherches montrent qu'il y aurait une tradition juive qui fait que quelqu'un de crucifié, puisque la crucifixion était connue chez les juifs, puisqu'il est dit dans le Deutéronome, on ne laissera pas un homme crucifié le soir, surtout avant Pâques. Donc, c'est pour ça que le Christ a été enseveli rapidement. C'est une loi juive. Donc, il y aurait des lois, mais j'ai pas trouvé de traces. On couvrait le visage du Christ pour pas voir ses supplices. Moi, j'ai une hypothèse complètement différente. Je suis en train de travailler dessus. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Mais si j'arrive à publier ces travaux, ça sera révolutionnaire.
Donc, le suaire d'Oviedo ne représente que le visage, c'est ça ?
Non, non, représente, ce sont des taches. Il n'y a pas d'empreinte. L'empreinte n'est que sur le linceul de Turin. Parce que dans l'évangile de Saint-Jean, il est dit les ottomans, c'est-à-dire les linges. Donc, il y a... On retrouve ce suaire, et on parle du suaire, mais on ne fait pas la distinction entre linceul et le suaire. Donc il y avait certainement, d'après ce que Saint Jean nous dit, le linceul et un suaire. Donc on rapproche de celui d'Oviedo. Mais on ne peut pas le voir, celui d'Oviedo, il est visible que deux fois par an. Il est à la cathédrale.
Vous voulez dire que le corps aurait été recouvert par deux tissus ?
Non. Dans la tombe, il y avait le linceul et un suaire, mais on ne sait pas s'il était sur le cadavre ou à côté du cadavre. Saint Jean nous dit « le suaire roulait à sa place ».
Il emploie le mot « suaire ».
Il emploie le mot « suaire ». Et pendant longtemps, « suaire » était le synonyme de linceul. Un linceul, c'est un linceul. Un suaire, c'est un suaire. Le linceul de Turin, c'est un linceul. Le suaire d'Oviedo, c'est un suaire.
Est-ce qu'on l'aurait descendu, est-ce qu'on l'aurait transporté dans le suaire jusqu'au tombeau et ensuite
non.
on l'aurait mis dans le linceul ?
Non. Le suaire, c'est un petit drap, un petit linge de 50, 60, c'est un carré. C'était fait pour essuyer la sueur. Les Romains le tenaient au bras pour s'essuyer ou se mettre autour du cou. Comme les chèches, comme fait les chèches actuellement, ouais. Comme autour du cou. Donc c'est quelque chose d'à part. Donc moi j'ai une hypothèse, je préfère pas vous en parler tant que j'ai pas publié, mais donc pour l'instant l'hypothèse que les chercheurs ont, c'est que pendant la crucifixion, on l'aurait mis au niveau de la face. Donc nous avons l'empreinte en trois dimensions d'un homme qui a été crucifié au 1er siècle de notre ère, chez les Romains, qui a été flagellé, couronné d'épines, qui a porté sa croix, qui a été crucifié. On ne connaît absolument aucun détail du mode de crucifixion chez les Romains. C'était un sacrifice humain et les crucifiés étaient condamnés à devenir des démons. Ils perdaient leur foi. Chez les Romains, c'était fondamental. Ils n'avaient pas d'au-delà. Donc c'est le pire des supplices. On en faisait des monstres qui n'avaient pas d'au-delà. Pour un Romain, C'est affreux, c'est impensable. C'est pour ça qu'on ne parlait pas de la crucifixion, ça portait malheur. Le fait d'en parler, ça portait malheur. Donc, dans la croix, il y avait ce qu'on appelle le patibulum, dont on a tiré patibulaire. Ça veut dire un peu... c'est en rapport avec ce que devenaient ces gens. Ce sacrifice humain, ce qu'on appelle l'arbor infelix, était un sacrifice au dieu des enfers. On consacrait ces victimes comme offrande au dieu des enfers, c'est-à-dire où il n'y avait pas d'au-delà. Ils devenaient des démons, et les gens les craignaient. Ils venaient hanter les maisons. C'était la pire des choses. Donc, qu'un dieu puisse se faire crucifier, c'est inconcevable. Dans la mythologie, il y a des héros comme Orphée qui se font tuer, il y a des dieux qui meurent avec Osiris et Isis. Il y a des résurrections, toute la mythologie, il y a plein de résurrections, il y a plein de quand on va en Inde, je viens de voyage en Inde, c'est exceptionnel parce que c'est l'Antiquité donc il y a des avatars, il y a des incarnations. Moi, j'ai vu une déesse vivante. On peut aller voir une déesse vivante, petite fille de 8 ans. Le problème, c'est que un dieu ne souffre pas. Un dieu est au-delà de la souffrance, parce que c'est lui qui vient combler la souffrance chez les hommes. Donc, il meurt, mais il est réanimé. Là, le problème de cet homme, c'est qu'il a souffert, mais il n'est pas réanimé. Il n'est pas revenu à lui. Il a disparu. C'est-à-dire qu'il n'a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Il a disparu.
On se retrouve demain pour continuer de parler du linceul de Turin, Jacques Jaume. À demain.